La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour à tous et bonne arrivée en Côte d'Ivoire. C'est dans cette république, grande comme 10 fois la Belgique, que Michel Zeneb Ouattara a débarqué il y a 43 ans. Prof de maths, planteuse de cacao ou encore militante pour l'annulation de la dette des pays du tiers-monde, cette infatigable activiste a fondé sur place la FIDEPS, la Fédération internationale pour le développement, la paix et la solidarité, pour permettre une vie meilleure à son peuple d'accueil. Elle œuvre sur tous les fronts. Je peux vous le dire, cette Belge du bout du monde que j'ai rencontrée là-bas m'a scotché. Et pour vous offrir un double regard sur la Côte d'Ivoire, j'ai invité ce matin en studio la comédienne belgo-ivoirienne Yves Marina Niawa. Bonjour Yves Marina.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Double prénom aussi, un peu comme Michel Zeneb.
Oui, tout à fait. Ben, je suis quand même vieille des 40 ans.
Vous faites juste la moitié, j'ai cru que vous aviez 20 ans.
Hein. Merci beaucoup Adrien, c'est flatteur.
Non, c'est franc.
Voilà, donc il y a 40 ans, il n'y avait aucune aide pour faire une écho ou quoi que ce soit. Donc quand une femme attend un enfant, on espère seulement pour les hommes que ce soit un petit garçon, pour les femmes que ce soit une petite fille. Donc mon père, il avait décidé que je serais un petit garçon et que je porterais le nom de Yves. Alors, un 7 décembre, c'est une petite fille qui se pointe là et il n'a pas changé de nom. Donc ma mère s'est dit, écoute, on va faire une chose, elle va garder le nom Yves, d'accord. Mais si on mettait Marina à côté, parce que j'aimais bien ce nom, et c'est unique, comme tu voulais qu'elle soit unique.
C'est pas mal.
Et voilà comment je me suis appelée Yves Marina.
Originaire du sud de la Côte d'Ivoire, vous venez de Zikosso et vous vivez dans le nord de la Belgique.
À Malines.
C'est bien, c'est équilibré. Vous êtes arrivé chez nous comme réfugié politique. Vous n'avez pas eu le choix. Hein. Contrairement à Michel Zeneb Ouattara qui a choisi de partir en Côte d'Ivoire, vous êtes arrivé un petit peu forcé ici.
Oui.
Et vous avez trouvé asile dans notre pays il y a une vingtaine d'années.
Oui,
vous faites des merveilles. Moi, je vous ai vu entre autres à l'affiche du film d'Éric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose, où vous incarnez le rôle de Madame Da. Mais vous êtes également présente sur les planches dans des tas de spectacles dont nous parlerons tout à l'heure. Pour vous présenter votre pays natal, Yves Marina, la lauréate de la Belgodyssée, Mariam Allard. Bonjour Mariam.
Bonjour Adrien, bonjour Yves Marina.
Bonjour Mariam.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler des enfants qui travaillent dans les plantations de cacao et donc l'initiative d'une association qui s'appelle l'International Cocoa Initiative.
Et ça tombe bien puisque notre Belge du bout du monde, Michel Zeneb Ouattara, est également planteuse de cacao, d'ananas, j'en passe, et des meilleurs.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Vous allez la découvrir ce soir à la télé. Elle est déjà ce matin à la radio sur la première. C'est Michel Zeneb Ouattara, sacrée personnalité. Elle a plusieurs cordes à son arc.
Ma maman, grand-mère et planteur. J'ai une plantation de cacao, de café, je fais des vivriers. Donc je fais plusieurs métiers en effet.
Vous êtes arrivée ici par amour ?
Par mariage, puisque par amour bien sûr, mais par mariage, je me suis mariée à un Ivoirien, donc je suis venue vivre avec lui en Côte d'Ivoire.
Il s'appelle Ouattara, comme le président, mais ça n'a rien à voir.
Nous ne sommes pas de la même famille, oui, c'est Ouattara, il est originaire de Bondoukou, à l'est du pays.
Et c'est vous qui l'avez poussé à revenir dans son pays natal ?
Oui, parce qu'il avait fait toutes ses études secondaires et supérieures en France et en Belgique. Et lui, il n'était pas tellement enthousiaste pour revenir ici. Mais je lui ai dit, tes parents ont payé tes études, ce n'est pas pour aller travailler en Europe, c'est pour travailler chez toi et développer ton pays.
Donc vous êtes plus ivoirienne que lui ?
On peut dire ça, oui. Je connais mieux la Côte d'Ivoire que lui. Bon, il est décédé maintenant, mais je connaissais mieux la Côte d'Ivoire que lui, certainement.
Vous êtes la directrice, la fondatrice de la FIDEPS. C'est quoi la FIDEPS ?
La Fédération internationale pour le développement, la paix et la solidarité.
Active dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la santé, tous les domaines importants.
Tous les domaines du développement, c'est-à-dire tout. On pourrait faire un gouvernement bis en quelque sorte, puisque nous couvrons tous les domaines. Le développement couvre tous les domaines.
Alors vous avez On va le dire à la française, parce que c'est une ancienne colonie française, 70 printemps, mais la retraite, c'est pas pour aujourd'hui.
Ah non, j'espère bien, j'espère que je pourrai être active jusqu'à mon dernier souffle. Il y a tellement de choses à faire que je ne pourrai jamais finir, mes arrière-petits-enfants peut-être.
Quel dynamisme, un peu comme le vôtre, hein, Yves Marina.
Elle me rappelle ma grand-mère. Non, mais je comprends tout à fait l'énergie qui l'a poussée à aller vers l'Afrique. Et elle a raison, parce que comme elle disait tout à l'heure, là, il y a vraiment beaucoup à faire, beaucoup, beaucoup à faire.
Avant de faire plus ample connaissance avec Maria Malard, on va d'abord planter le décor, la Côte d'Ivoire, de sacrés paysages en perspective, hein, Mariam.
Oui, la Côte d'Ivoire est un pays plutôt plat. Il y a beaucoup de plaines et de plateaux et quelques reliefs dans l'ouest qui arrivent jusqu'à environ 1700 mètres d'altitude. Au sud, le pays est bordé par l'océan Atlantique. Il y a 520 km de littoral. Un pays avec des paysages variés et riches qui s'étend sur plus de 320 000 km².
Beaucoup d'habitants en Côte d'Ivoire ?
Oui, la Côte d'Ivoire compte 20 millions d'habitants. Ils parlent le français, la langue officielle. 40% d'entre eux sont musulmans, 20% sont chrétiens et 17% d'Ivoiriens pratiquent des religions tribales, principalement dans les campagnes. Du côté du climat, vous l'aurez compris, on n'est pas très loin de l'équateur. Le climat est chaud et humide, surtout au sud du pays. Les températures sont en moyenne entre 22 et 32 degrés. Dans le nord, le climat est plus clément, plus tropical. Le climat est donc différent dans le nord et dans le sud, ce qui explique de grandes variations de température.
Et pour l'instant, il fait une trentaine de degrés dans votre pays natal, Yves Marina. Ça contraste évidemment avec les températures quasi hivernales de notre royaume. On s'habitue, ça va ?
On s'habitue. Et comme on dit entre nous, le corps noir est très résistant. Parce que...
Je vais vous présenter un autre artiste, comme vous. Il s'appelle Africain le Fou. C'est un griot, sacrée personnalité, écoutez.
Garantissons la paix, qu'est de la perte pour demander le cessez-le-feu pour la soie, pour la soie, pour la soie. Je vous remercie, ensemble sauvons le continent africain qui est en train de s'exploser.
Et je vois que les femmes du quartier à Bobo vous applaudissent.
On dit souvent aussi que la femme c'est son maman.
Parole de sage, hein, Michel Zenel.
Oui, mais j'aimerais bien que les mamans soient respectées en tant que maman. Mais il faudrait qu'on respecte aussi les femmes en tant que femmes et pas seulement en tant que maman.
Parce que, voilà,
elles sont aussi des citoyennes, elles travaillent beaucoup, elles sont des mamans, elles sont les mamans de tous les vieux. D'ailleurs, on nous appelle tous mamans, moi aussi. Mais en tant que femme, on n'est pas assez respectée, pas assez écoutée. J'ai pas raison, mes sœurs.
Ah oui, et je vois qu'Yves Marina applaudit aussi, vous êtes d'accord ?
Ben oui, je suis tout à fait d'accord.
Vous parlez des droits de la femme, entre autres dans le dernier spectacle que vous avez présenté à la Vénerie, c'est le viol d'une petite cerise noire.
Oui.
Vous avez un point commun avec Michel Zeneb Ouattara, vous luttez pour
la... Oui, on lutte pour la cause des femmes, et je suis tout à fait d'accord avec elle, et d'ailleurs, quand je vais partir, j'espère que je lui rendrai visite, parce qu'elle elle fait un combat tout à fait admirable, et il y en a depuis lors qui ont suivi aussi ces traces, et c'est bien, parce que ça fait bouger quand même un peu les choses.
On reparle de tout cela après une chanson d'un prophète de votre pays, Alpha Blondie.
Celui-là, oui.
Vous aussi, vous connaissez des Belges du bout du monde ? Livrez-nous vos bons plans et vos contacts sur Twitter via le hashtag BBDMRTBF.
Sweet Fanta Diallo, c'était Alpha Blondie sur La Première. Les Belges du bout du monde sont en Côte d'Ivoire ce matin avec Yves Marina Niawa, qui est comédienne belge installée à Malines, et Michel Zeneb Ouattara. On la retrouve à bord d'un taxi d'Abidjan dans une poignée de secondes.
Les Belges du bout du monde, jusqu'à 10h sur La Première, Adrien Jovenot.
Le taxi comptait d'Abidjan.
Et vous allez où ?
Je vais à la Riviera.
Vous êtes complet là ?
Oui, on est au complet. Le taxi prend 4 places, 600 par passager. Et le tarif est arrivé moins cher, c'est super.
600, ça veut dire 1 euro ?
600, ouais, c'est 1 euro. 600 francs CFA.
1 euro la course alors ?
Ouais, la course, 1 euro par personne.
Ok, bonne route. Hein.
Ça me fait plaisir.
On appelle ça Woro Woro, ça dit je me débrouille quoi. Donc maintenant, ils ont des lignes aussi, mais seulement eux, ils, sur la ligne, ils peuvent charger et décharger.
Alors on sent la débrouille que c'est le maître mot ici. Il y a plein de petits métiers. Il y a des vendeuses d'eau, il y a des vendeuses de mouchoirs, de journaux au coin des rues, au feu rouge.
Elle a peut-être 5 francs là sur un paquet, mais à la fin de la journée, elle arrive à se débrouiller pour nourrir sa famille.
Alors on est à l'ombre de tours gigantesques, on dirait les grandes tours américaines, alors qu'on est dans une grande ville africaine. C'est même pas la capitale, Abidjan, hein, c'est le centre économique.
Oui, ça a été créé par Oufouet, qui voulait vraiment que la Côte d'Ivoire soit un pays développé. Et il avait réussi à faire une grande partie du chemin, mais depuis qu'il est décédé, on est en train de se sous-développer.
Mais vous allez nous le confirmer, Maria Mallard, la situation économique est délicate en Côte d'Ivoire.
Oui, économiquement, la Côte d'Ivoire se débrouillait très bien jusqu'aux années 1970. Elle exportait principalement du café et du cacao. Or, à cette période, les cours de ces produits agricoles chutent. Le pays entre alors en récession. Cette crise aura des répercussions sur la situation économique du pays jusque dans les années 2000. Par la suite, la situation politique instable ne favorisera pas une reprise de l'économie. Mais depuis 2012, le pays regagne en stabilité politique. Alassane Ouattara, le nouveau président, est un économiste reconnu. Les négociations avec les créanciers du pays ont repris, c'est-à-dire entre autres les négociations avec le FMI et la Banque mondiale. Résultat, en juin 2012, la Côte d'Ivoire a obtenu une réduction de sa dette extérieure de 8,18 milliards de dollars.
Et on revient de loin, mais il reste beaucoup de travail. Hein. Ça ne va pas super bien en Côte d'Ivoire, Yves Marina.
Mais pour qu'un pays se développe, il faut la paix. Hein. Il y a eu des troubles, comme disait Marianne, depuis les années 2000, qui n'arrêtent pas. Mais c'est la débrouillade. Ouais. On fait des petits boulots pour pouvoir y arriver. Il faut se débrouiller pour ne pas pouvoir voler, être un délinquant. C'est pas facile.
Et c'est vrai qu'on retrouve dans la rue tous les petits métiers.
Oui.
Alors moi j'ai croisé un sorcier, il vend des produits miracles. Alors je sais pas si ça fonctionne, mais je vous propose de faire la connaissance du très folklorique Docteur Jeannot.
Oui, je suis Docteur Jeannot.
Docteur Jeannot ?
Oui, oui.
Et alors qu'est-ce que vous vendez, Docteur Jeannot ?
Une très belle question, j'ai le docteur soigne les médicaments des enfants qui font pipi au lit à la maison. L'âge de l'enfant, je commence de 3 ans jusqu'à 20 ans, 30 ans et 15, 50 ans. Le médicament, on ne le boit pas et on ne le pirige pas. Arrivé à la maison le soir, quand l'enfant va finir de manger, quand il est prêt pour aller dormir, la poudre, on met un peu dans la main avec un peu d'eau là-dessus. Vous faites comme ça, il faut passer au bas-ventre de l'enfant et au niveau du rein, la personne qui fait pipi au lit. Pendant 4 jours, le docteur Jeannot, 43, 44, 64, 70, 13, c'est le numéro de téléphone du docteur Jeannot.
Et vous êtes le docteur Jeannot ?
Oui, c'est moi le docteur Jeannot.
Ce n'est pas un médecin, ce sont qui vendent des produits, on dit docteur, mais en fait, ils n'ont aucune formation médicale. Ils vendent des produits traditionnels.
Oui, oui, et la raison, c'est la tradie moderne, tradie praticien moderne.
Qu'est-ce qu'on voit derrière nous ? Ce sont des jeunes qui courent, ce sont des sportifs qui vont au stade ?
Oui, exactement, monsieur le journaliste. Il y a un match, la Côte d'Ivoire contre le Cameroun. C'est ça.
Ok, ben on va aller suivre ça. On vous souhaite bonne réussite avec tout votre traitement miracle alors.
Oui, merci. Ce que je voulais vous dire, vous pouvez aussi aller en Europe pour parler de moi là-bas, ce que la pharmacopée africaine fait. Merci, monsieur le journaliste.
Merci,
mon numéro, 44 64 70 13.
C'est noté, docteur Jeannot, merci. 44 64 70 13. Je ne sais pas si vous avez des enfants qui font pipi au lit, Marina.
C'est pas chez docteur Jeannot que j'irai.
Non. Alors, c'est clair. Il est un peu charlatan. Mais à côté de lui, il y a des vrais toubibs. Ça, je voudrais quand même qu'on redevienne sérieux deux secondes. Qui s'investissent pour la santé des habitants vivant dans les régions les plus reculées. Écoutez le médecin qui travaille aux côtés de notre Belge du bout du monde, Michel Zeneb Ouattara.
Je suis médecin radiologue. J'ai un appareil d'échographie portatif. Nous faisons de la médecine de proximité. Nous voulons développer ça avec Michel.
Médecine de brousse, médecine de campagne?
Non, de proximité. Parce que la médecine de campagne, c'est pas de ça que les populations ont besoin. Les populations ont besoin de la médecine tout court. L'échographie, c'est une médecine de haut niveau, mais nous la portons en milieu rural aux populations qui ne peuvent pas se déplacer.
Et là, vous l'avez compris, c'est un vrai médecin. Ouais. Que vous verrez ce soir à l'œuvre dans l'émission Les Belges du bout du monde. C'est à 18h sur la Une télé. Et franchement, moi, je lui tire mon chapeau parce que ce médecin qui est en poste à Abidjan va bénévolement, 3 jours par mois, travailler dans les dispensaires à la frontière du Nigeria. Vraiment très, très beau travail, très bel investissement. On reparle de votre pays natal, Yves Marina, Niawa, juste après la pub. Vous ne bougez pas, hein ?
Oui, non, je suis là.
Vous restez.
Merci.
Avec je suis... nous jusqu'à 10h ce matin.
Ça marche.
9h, 10h.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Avec Adrien Jouvenot.
Excellent dimanche sur la première à 10h. Alain Gerlache débarquera avec ses décodeurs RTBF. Mais d'ici là, ce sont les Belges du bout du monde sur la première avec notre chroniqueuse Mariam Allard et nos expats qui nous épatent, Yves Marina Niawa et Michel Zeneb Ouattara.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Nous allons retrouver notre Belge du bout du monde dans son petit village de Brousse, à Commandant Crow, près de la frontière avec le Nigeria. Ici, ça respire la bonne humeur. Nous sommes dans les cuisines du village de Commandant Crow. Michel, les femmes sont au turbin là.
Oui, elles sont en train de faire la cuisine pour tout le monde, bien sûr, mais spécialement pour nous faire goûter les spécialités locales.
Ce qu'on entend derrière nous, ce n'est pas un coup de marteau. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est du ripilé?
C'est de l'igname. Donc c'est du foutou. On écrase le foutou quand on l'a fait cuire et on en fait des sortes de pains. C'est du foutou d'igname.
Alors à côté, madame coupe, ça ressemble à des courgettes. C'est quoi? C'est poivron, c'est courgette?
C'est du gombo.
Du gombo, ok, qu'on voit aussi sécher devant nous, oui, sur des toiles.
Parce qu'on le prépare frais comme ça, donc on appelle sauce gombo. Et quand il est sec, on l'écrase, on en fait une sorte de farine et ça devient sauce djimblé. Ça n'a pas le même goût.
C'est piment.
C'est piment pour mettre dans la sauce.
C'est à mettre dans la sauce.
Ça pique fort.
Ça pique.
Alors c'est bon. Quand il fait chaud, il faut manger épicé. Michel, vous avez grandi il y a une septantaine d'années dans un tout petit village, pas ici en Côte d'Ivoire, mais dans le fin fond de l'Ardenne.
Oui, tout à fait, à Aulois-sur-Virouin, donc c'est dans la forêt, donc ça ne suis pas dépaysé ici, et à aucun point de vue, puisque là-bas, on cultivait nos pommes de terre, on cultivait nos légumes dans le jardin, on avait un verger avec des fruits. J'allais souvent dans la forêt, c'était même mon loisir favori d'aller me promener dans la forêt et d'observer les animaux.
Au bout du monde, vous restez proche de vos racines finalement?
Tout à fait, je suis très proche de la nature, donc je reste proche de la nature. Je ne suis pas dépaysée, je me sens chez moi partout ici, comme à Aulois.
Et vous avez gardé la main verte, qu'est-ce que vous plantez, qu'est-ce que vous cultivez ici dans ce petit village de Brousse?
Eh bien, d'abord du cacao, bien sûr, un peu de café, des ignames aussi, du gombo, des aubergines. Et j'ai un champ d'agrumes, donc d'arbres, des orangers, des mandariniers, des pamplemoussiers, des citronniers. Il y en a qui sont déjà en production, les fruits de la passion, les manguiers, les avocatiers, c'est déjà en production. Donc, je suis en train de diversifier au maximum les fruits qu'on devrait pouvoir offrir aux clients de l'auberge écologique qu'on rêve de construire ici.
C'est en tout cas à la fortune du pot qu'on est reçu et dans une ambiance très conviviale. On voit ces femmes autour de nous, vous mangez assises par terre. On a l'impression que vous êtes une sœur parmi elles.
Oui, ici.
Sans le côté religieux, le côté juste fraternel.
Oui, tout à fait. Ici, je me sens parmi elles. On s'appelle sœur. D'ailleurs, on s'appelle maman ou sœur selon l'âge. Mais en tout cas, oui, on est en famille. On est en famille ici.
Avec aussi un grand respect pour la nature et les ressources naturelles. Vous vivez de peu, finalement, avec une empreinte écologique très réduite ici.
Ah oui, ici, c'est le vrai bio, parce qu'on n'a pas de produits chimiques. On cultive tout vraiment d'une manière totalement naturelle. Tout est naturel.
On vit naturel aussi. Vous vous couchez avec le soleil. Le soir, il n'y a pas d'électricité?
Ben oui, on n'a pas le choix. On n'a pas d'électricité. Donc, de temps en temps, on bavarde un peu autour du feu. Mais enfin, la plupart du temps, avant 20h, tout le monde est couché.
Et par contre, vous vous levez très très tôt?
Au chant du coq. Tous les jours au chant du coq. D'ailleurs, c'est agréable. On a le chant du coq, on a le chant des oiseaux, on a le parfum des fleurs, on a le calme. Donc c'est très agréable de se réveiller ici.
Les femmes autour de nous ont beaucoup d'enfants. On les voit participer aux travaux de la cuisine. Ce sont souvent des très 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 grandes familles.
Oui, ici les femmes ont beaucoup d'enfants et puis parfois il y a plusieurs femmes aussi, donc on peut trouver des familles de 20, d'une vingtaine d'enfants.
Yves Marina Niawa, vous êtes originaire de Côte d'Ivoire. Oui. Vous venez aussi d'une famille nombreuse ?
Oui, je ne dirais pas le nombre.
D'accord, secret défense.
Oui, secret défense. Non, c'est une grande famille parce que c'est vrai qu'en Afrique, moi par exemple, j'ai vécu avec 4 femmes, 4 mamans. Donc on se retrouve avec des grandes familles, mais c'est très joyeux. Moi, mon enfance a été la plus belle période de ma vie parce que tu te réveilles le matin, tu tires la gueule et tout le monde se moque de toi, quoi. Et c'est fini. Tu ne peux plus te fâcher, tu ris. Et ça passe.
Ça a dû vous bouleverser de devoir quitter votre pays. Vous étiez adolescente, vous êtes arrivée chez nous en 1993. Vous avez fui la guerre civile, vous êtes arrivée comme réfugiée. Oui. Un parcours qu'on peut mettre aussi en parallèle avec l'actualité.
Les gens qui meurent à la Méditerranée, franchement, ça réveille des souvenirs, quoi. Heureusement, moi, ça n'a pas été le cas. Je suis rentrée bien vivante. Mais quand je vois tous ces enfants, ces mamans qui sont obligées de partir de chez elles, je comprends.
Et vous êtes très reconnaissante envers la Belgique.
Ah oui, tout à fait. Parce qu'ici, on a la chance de vivre en paix. C'est ce que j'ai dit à mes amis. Vivre mieux, c'est vivre en paix. Ensuite, le reste viendra. On fait avec, comme on dit aussi en Belgique, on fait avec. Mais le plus important, c'est se réveiller le matin et voir qu'on peut vraiment être là et dire « Ouf, eh bien, maintenant je vais entamer ma journée. » Mais là, c'est pas... Ben, à l'époque, ce n'était pas le cas parce qu'on se cherche, tout le monde était en brousse, on fuyait. Il y a des personnes âgées qui sont mortes. Parce que, ben voilà, il fallait suivre, il fallait fuir les villages, quoi. Donc, c'est pas facile quand tu dois porter ton grand-père sur le dos et essayer d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Et quand il meurt, il faut l'abandonner pour continuer. C'est pas du tout facile.
Non, vous avez dû traverser beaucoup d'épreuves. Ouais. Aujourd'hui, vous savourez des jours plus heureux chez nous. Du côté de Malines, très belle petite ville.
Oui.
Où vous avez donné la vie, je crois, à 2 enfants.
À 2 enfants, une petite de 13 ans et un petit de 5 ans, qui a juste eu 5 ans le dimanche.
On parlait des enfants, du travail aussi, des enfants que nous allons évoquer avec Maria Mallard. Le travail de l'International Cocoa Initiative, une association qui lutte, Mariam, contre le travail des enfants dans la culture du cacao.
Oui, elle agit notamment en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur et exportateur mondial de cacao. Le travail des enfants, ce n'est pas nouveau. Dans plusieurs pays, les enfants travaillent pour nourrir leur famille. Mais en Afrique de l'Ouest, les conditions de travail sont particulièrement difficiles. Les enfants portent des charges lourdes et travaillent avec des outils dangereux comme des machettes. On parle même parfois dans la presse d'enfants vendus comme esclaves dans les plantations en Côte d'Ivoire.
Alors comment cette initiative est-elle née ?
Eh bien, avec l'indignation des médias face à la situation, les grands noms de l'industrie du cacao et du chocolat ont signé un accord. L'objectif, une baisse de 70% du travail des enfants d'ici 2020. Et c'est de cette manière notamment qu'est née l'International Cocoa Initiative, une association financée par les grands noms de l'industrie du chocolat.
Chocolat que vous dégustez peut-être ce dimanche matin en écoutant les Belges du bout du monde. Alors on a forcément une pensée pour tous ceux qui travaillent durement pour nous permettre de le savourer. Concrètement, sur le terrain, que fait cette association, Mariam ?
Eh bien, il y a beaucoup de projets mis en place. Construction d'écoles, sensibilisation. La plupart d'entre eux visent une meilleure éducation ou encore la promotion du travail des femmes. Prenons un exemple. Pour la rentrée scolaire, les enfants de producteurs de 22 coopératives ivoiriennes ont reçu du matériel scolaire, près de 1400 kits scolaires composés de sacs à dos et de matériel. L'idée, vous l'aurez compris, c'est donc d'enlever les enfants des plantations pour les amener à l'école.
Raison de plus pour acheter du cacao, du chocolat équitable. Notre Belge du bout du monde, Michèle Ouattara, elle se définit plus comme une coopérante que comme une humanitaire. Écoutez.
J'ai banni le mot humanitaire. Alors, on nous considère comme des humanitaires, mais pas du tout. L'humanitaire, c'est celui qui vient de l'extérieur apporter une aide comme un pansement sur une plaie infectée. Un pansement sur une plaie infectée, ça sert à rien, sauf à voiler la plaie ou à peut-être retarder le pourrissement. Nous, ce qu'on veut, c'est chercher l'origine de la plaie et réduire le mal à sa racine. Donc ça veut dire qu'on veut conscientiser les gens, on fait en sorte qu'on leur donne, on leur donne rien et que ce soit un échange équilibré. Parce que nous leur apportons un encadrement, elles sont souvent analphabètes, donc on les aide en tant qu'intellectuelles, mais elles nous apportent beaucoup parce qu'elles ont des connaissances empiriques très importantes que nous n'avons pas.
Et que nous n'avons plus en fait.
Ou que nous n'avons plus en tout cas, donc il y a un échange, c'est-à-dire c'est basé sur le partage. Donc on n'est pas là en donneur de leçons ni en donneur d'argent, on est là vraiment fraternellement pour échanger et essayer de s'épauler mutuellement.
Comment est-ce qu'on vous prend dans votre famille? Vous avez un fils qui travaille chez Microsoft. Est-ce qu'il vous prend pour une martienne?
Presque. Hein. Il me dit que c'est parce que je m'ennuie et que j'ai rien à faire. Il me prend pour une... Parce qu'il me dit que la sénilité me guette. Donc il n'y croit pas, en fait. Il n'y croit pas. Il ne comprend pas mon action. C'est vrai qu'on n'est pas prophète chez soi. Hein.
Mais finalement, ça se passe quand même bien.
Ah oui, ça se passe bien, parce que dans tous les cas, on a des débats parfois très chauds, mais dans tous les cas, j'assume ce que je fais, j'assume ce que je suis. Il m'accepte tel que je suis, là, finalement.
Et vous, Yves Marina Niawa, artiste, comédienne, ivoirienne, installée en Belgique, comment votre famille a-t-elle réagi à votre carrière un peu atypique?
Ils appellent pour dire « Ah, on t'a vu à la télé, ah, on t'a vu ceci, ah, il y a une des pièces qui viennent passer, tu étais au Togo, tu étais ceci, tu étais à Kinshasa, on a vu tout ça. » J'ai dit « Ben voilà, donc non, ils sont contents, ils suivent bien mon trajet. »
Ouais, et bon. C'est vrai que quand on tape votre nom sur Google, il y a énormément d'articles qui apparaissent, vous avez joué dans des pièces très très différentes. La dernière, le viol d'une petite cerise noire, mais il y a aussi ce que Ségor dit encore aux femmes. Ou alors « Quand j'étais petite, je marchais les pieds nus dans la neige. »
Oui.
Et puis votre rôle au cinéma dans le film d'Éric Emmanuel Schmitt. Chapeau. Nous allons dans quelques instants parler de l'actualité climatique. Hein. C'est la COP21 qui concerne aussi la Côte d'Ivoire. Après une chanson de Tiken Jafakoli qui tire la sonnette d'alarme. Attention, c'est le dernier appel.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
Dernier appel, c'était Tikenja Fakoli, évidemment. Moi, je vous lance un premier appel pour le traditionnel brunch de fin d'année des Belges du bout du monde. Il aura lieu dans 3 semaines, le dimanche 20 décembre, à l'hôtel de ville de Bruxelles, sur la Grand Place, hein, la plus belle du monde, on ne vous refuse rien. Les infos sont en ligne sur la page Facebook des Belges du bout du monde et sur lapremière.be, tout comme les photos et vidéos de nos Belges du bout du monde en Côte d'Ivoire. Nous recevons ce matin Yves Marina Niawa, comédienne ivoirienne vivant à Malines. Et nous sommes allés voir là-bas, sur place en Côte d'Ivoire, Michel Zeneb Ouattara, prof de maths et planteuse de cacao entre Abidjan et Commandant Crow.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
Avant de retrouver Michel Zeneb Ouattara, j'ai voulu tendre notre micro à son voisin.
Je suis le propriétaire terrien des lieux.
Quel est votre nom?
Guédé Camille.
Camille, quelle température fait-il, Camille?
34 degrés Celsius.
34 degrés Celsius. Je vois que vous avez une noix de coco.
Une noix de coco.
C'est pourquoi? C'est pour manger ou c'est pour boire?
J'ai bu le lait que ça contenait, puisque je ne touche pas à l'alcool.
Alors, on est en période de fête. Qu'est-ce qu'on célèbre ici? Quelles sont les fêtes les plus importantes du village, Camille?
Bon, les fêtes coutumières, la naissance des bébés. Le décès d'un vieillard assez avancé en âge. Hier, avant-hier à 19h, j'ai perdu la grande sœur de papa. Elle est née en 1917, donc cela fait aujourd'hui 97 ans.
Les funérailles ici, c'est un moment de fête, il y a de la musique, il y a des danseurs.
C'est un moment de fête quand la personne est très avancée en âge, comme celle-là. Sinon, si c'est un jeune qui s'en va, c'est regrettable, c'est douloureux, il n'y a pas de fête. Mais pour elle, c'est une fête, des masses vont danser. La fanfare sera invitée. Des gens viendront de partout pour manger, pour festoyer, pourquoi pas.
Eh bien, je vous souhaite une bonne fête. Alors, bonne fête de funérailles.
Merci beaucoup.
Les fêtes de funérailles, vous en avez vu Yves Marina, dans votre pays natal?
Oui, tout à fait. L'année dernière, ma grand-mère, nous, on croyait qu'elle avait 98 ans, mais on disait qu'elle avait entre 105 et 110 ans. Il fallait faire la fête, il ne fallait pas la pleurer, parce qu'elle a tellement soutenu les gens, aidé beaucoup. Donc les gens sont venus un peu de partout, on a fait une grosse fête.
Ouais. Les sages du village, toujours très respectés en Côte d'Ivoire, que ce soit Michel Zeneb Ouattara, notre Belge du bout du monde, ou votre grand-mère, hein, Yves Marina. Alors à J-1 de la COP21, je vous propose maintenant de tendre le micro à la nouvelle génération avec un jeune particulièrement engagé dans la défense de l'environnement.
Quand il y va de notre histoire, de prendre soin de notre environnement, parce que comme on peut le constater, le réchauffement climatique aujourd'hui entraîne assez de conséquences et les prévisions qui sont faites pour le futur sont vraiment pas bonnes.
Alors est-ce que tu peux mettre un petit peu d'image à la radio? On se trouve ici vraiment à l'entrée de la forêt?
Oui, ici nous sommes à l'entrée de la forêt, ici. Nous sommes chez Michel là, oui.
Chez Michel la Belge ou l'Ivoirienne?
Non, la Belge. En fait, elle a fait longtemps avec nous, donc voilà. Finalement, on s'est dit qu'elle nous appartient, sinon elle est d'origine belge.
On entend aussi les oiseaux, la nature. Il n'y a pas de tronçonneuse pour l'instant, c'est très calme ici.
Vous savez, les oiseaux sont de super voyageurs. Hein. Tantôt ils sont ici, ils sont de l'autre côté, donc voilà. On les retrouve un peu partout, oui.
Qu'est-ce qu'on peut voir? Des éléphants?
Les éléphants, c'est vrai, il peut en avoir en Côte d'Ivoire, mais ils sont très rares. Vous savez, avec la forte immigration, les populations sont venues, ont coupé la forêt, les éléphants se sont enfuis. Voilà, c'est l'une des conséquences de la déforestation.
20 ans et on sent déjà une grande maturité, une grande volonté aussi d'investir dans l'écologie.
Oui, vraiment, sincèrement, j'ai choisi l'écologie parce que ça y va de, non seulement de ma santé, il faut prendre soin de son cadre environnemental, ça commence par là.
Tu es amoureux de ton pays?
Très, très, très amoureux de mon pays. J'aime mon pays tel qu'il est. Je l'aime bien. Avec toute sa diversité, non seulement culturelle, avec beaucoup de choses. Il y a beaucoup de miracles en Côte d'Ivoire.
Beaucoup de miracles?
Oui. Bon, en fait, quand je parle de miracles, je veux dire que nous cultivons assez de choses. Le cacao, le café, l'EVA, comme on a bien pu le constater.
Tu es optimiste pour l'avenir de ton pays?
Très, très, très optimiste. Je suis sûr et certain qu'un jour, mon pays va atteindre son apogée. Déjà, nous sommes sur la voie avec tout ce qui se fait. Je pense que c'est par là que commence le développement. Je suis certain qu'un jour, on va atteindre le développement.
Il y croit, vous aussi, Yves-Marina?
Oui, ben oui, tout à fait, parce que c'est un pays assez riche. Hein. C'est riche, la Côte d'Ivoire bourrée de richesses. Il faut juste la main qu'il faut pour pouvoir développer les choses. Il y a une catégorie des gens qui sont très riches en Côte d'Ivoire et derrière, il y a tout le monde qui se débrouille pour pouvoir, ne serait-ce qu'avoir quelque chose à manger une fois par jour. C'est aberrant.
Je vous présente deux autres passionnés d'environnement, le garde forestier et le médecin de ce fameux parc national de Taï.
Le parc de Taï fait une superficie de 536 000 hectares. On a véritablement beaucoup d'espèces. On a par exemple les hippopotames nains, qui sont une espèce endémique au parc de Taï. On a les céphalopes de Gentinck aussi. On a aussi le léopard, toutes sortes de calaos, les amphibiens, vraiment on a tout.
Alors vous qui êtes médecin, la forêt c'est aussi une pharmacie, non?
Oui, bien entendu. Ce parc national de Taï est un lieu d'études de l'université. Et les étudiants en pharmacie viennent souvent, ils font des thèses et doctorats et tout ça. Donc il est important de conserver ces plantes médicinales qui sont sources de produits pharmaceutiques que nous n'avons pas encore explorés. C'est une richesse normalement que tout le monde devrait en principe contribuer à conserver. Respirons vraiment l'air naturel. Ce n'est pas l'air, j'allais dire, pollué des villes et tout ça. Et puis nous avons l'occasion de savoir, de constater un peu d'où vient ce qui est à l'origine de notre nourriture. Voilà, la nourriture, c'est la santé. Respirer un bon air, c'est la santé. Vraiment, je suis content de participer à tout ça.
Quand vous retournez au pays, Yves Marina, vous avez l'impression de mieux respirer?
Oui, l'air est beaucoup plus respirable, c'est frais. Et j'adore, comme Michel, j'adore vraiment toucher, retourner dans la brousse, aider mes tantes, cultiver. Ça me manque.
On va redonner la parole à Michel Zeneb Ouattara dans quelques instants, mais tout d'abord les perspectives pour la Côte d'Ivoire avec vous, Maria Mallard.
Oui, alors c'est surtout en politique que les perspectives sont importantes. Le 25 octobre dernier, les Ivoiriens se sont rendus aux urnes après validation du Conseil constitutionnel. Alassane Ouattara a été réélu avec près de 84% des suffrages. Une partie de l'opposition avait appelé à boycotter l'élection. Le taux d'abstention était d'ailleurs très important. Plus de 45% des Ivoiriens n'ont pas voté.
Il n'est pas tout jeune, hein, Ouattara?
Non, 73 ans, l'homme est réélu pour 5 ans de plus jusqu'en 2020. présente. De nombreux défis l'attendent. Il sort de 5 années de présidence plutôt réussie. Mais il reste encore des questions à régler, comme la question du chômage chez les jeunes ou encore ce que disait Yves Marina tout à l'heure, les inégalités entre riches et pauvres. Et donc, d'un point de vue politique, il reste des frustrations du côté des partisans de Gbagbo, le président sortant de 2010. Ses partisans restent convaincus qu'il n'a pas perdu les élections, ce qui laisse des tensions non réglées 5 ans après ces élections. Le défi pour Alassane Ouattara sera donc d'assurer une réconciliation nationale, la priorité du pays restant évidemment la stabilité et la paix.
Et nous allons nous donner la parole pour conclure ces Belges du bout du monde à Michel Zeneb Ouattara. Je rappelle qu'elle n'a rien à voir, même si le nom de famille est le même, Ouattara. Avec le président Ouattara. Elle nous parle dans son petit village de Commandant Crow, arrosé au moment de l'interview par une pluie tropicale. Bienvenue.
D'abord, cette pluie-là, c'est la meilleure pluie. Elle n'est pas violente, donc elle pénètre dans le sol en douceur. Et juste avant la saison sèche qui s'annonce, c'est vraiment une bénédiction, la pluie.
Michel, vous êtes arrivé ici en Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais eu envie de rentrer en Belgique, d'abandonner vos affaires ici, la plantation, tous les projets ?
Rentrer en Belgique pour y recommencer à y vivre complètement, non. Abandonner non plus la Belgique, non. Je me sens bien entre les deux pays, mais je suis plus souvent ici qu'en Belgique, parce que je pense qu'il y a plus de choses à faire ici et moins de gens pour les réaliser aussi.
Vous n'avez pas peur parce qu'il y a eu des coups d'État, il y a eu des changements de régime, souvent violents, de la guerre civile aussi. Vous êtes toujours resté. Est-ce que vous avez parfois été inquiété, Michel ?
Oui, j'ai été inquiétée puisque j'étais présidente du syndicat des enseignants qui, à une époque, on confondait ça avec un parti d'opposition. Alors, c'était un syndicat très actif, simplement. Mais enfin, nous avons tout de même été à la base du retour au multipartisme. J'ai été inquiétée. On m'a suspendu mon salaire pendant 3 ans. On m'a dénigrée dans les journaux. On a attenté à ma vie à plusieurs reprises. Mais j'ai pas peur parce que je me dis, bon, ben, si... Il y a tellement d'enjeux, on ne doit pas craindre la mort. Ce qu'on a à faire, c'est au-delà de la mort. On me reproche souvent de voir trop grand, mais il faut voir grand pour réaliser quelque chose. Si on voit trop petit, on ne peut pas réaliser. Et puis, les problèmes sont immenses. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des projets immenses ? Il faut répondre à des problèmes immenses, pas des projets immenses.
Des rêves assez grands hein, pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. Ces rêves d'une grande dame hein, qui a le feu sacré. Elle vous a impressionné, hein, Maria Mallard. Vous l'avez vue en avant-première dans l'émission télé des Belges du bout du monde. Sacré numéro. Hein.
Oui, elle est très, très inspirante.
Ouais, et puis une dame que vous avez envie de rencontrer le mois prochain.
Oui, tout à fait. Je retourne. J'ai ma famille ici aussi à qui je dis vraiment merci. C'est la famille Van de Wielen qui m'ont soutenue, qui m'ont tout de suite adoptée. Et grâce à eux, j'ai pu rester en Belgique vraiment en paix.
Oui, et nous faire bénéficier de votre talent aussi.
Merci beaucoup.
Oui, on peut vous voir sur scène dans différents spectacles. Vous travaillez sur quoi pour l'instant ?
Un spectacle en néerlandais.
Il spreekt Nederlands.
Ik probeer. Ja,
c'est pas mal, het is niet slecht.
Proficiat. Ja, dank u wel, maar het was niet mijn stuk.
Fantastique, c'est une Ivoirienne qui va nous apprendre à parler flamand sur la première. Bravo, bonne continuation en tout cas.
Merci beaucoup.
Hartelijk bedankt.
Ah, dank u wel.
En tot volgende keer. Hein?
Ja, zeker.
Tot Van Aven en télévision à 17h50 sur la Une. Il y aura le portrait de notre Belge du bout du monde, Michel Zeneb Ouattara. Et puis, vous pouvez nous retrouver aussi 24 heures sur 24 sur la page Facebook des Belges du bout du monde. Dimanche prochain, nous serons en Sardaigne avec Maïté Dumont, qui est spécialisée dans l'agriculture bio. Ça va vous plaire,
ah,
ça.
Ah, je vais adorer.
Merci en tout cas à vous, Yves Marina et Mariam,
merci.
D'avoir participé à cette émission mise en onde par Paul Michel. Dans quelques instants, sur la première, les décodeurs RTBF avec Alain Gerlache. Bonjour Alain.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
On va revenir sur la COP21 ?
Oui, on va parler de la COP21. Ça commence ce dimanche, en effet, à Paris. C'est la grande conférence sur le climat, sur l'avenir de la planète. C'est aussi une grande opération de mobilisation qui aurait dû mobiliser les médias. Mais bon, entre-temps, il y a eu aussi les attentats. Mais c'est quand même très important d'en parler. Et donc, on va revenir sur ce grand sujet.
Dans quelques instants après le flash de 10h. Merci Alain, bonne émission en
merci
radio
Adrien.
Et en télé aux alentours d'11h, 11h15. Les Belges, nous aussi, nous serons en télé tout à l'heure à 17h50. Passez toutes et tous une excellente journée sur la première.
La première, podcast.